RCF.
Bonjour, fidèles auditeurs, auditrices de notre émission mensuelle « La vie militaire dans le Cher et le Berry » sous le patronage d'Agora Défense et dans le cadre du Berry se raconte. Nous poursuivons notre cycle de trois émissions consacrées aux clergés réguliers, séculiers dans cette fin du 19e siècle et jusqu'à la moitié du 20e, plus particulièrement en Berry. Notre thème sera aujourd'hui les prêtres dans cette première guerre mondiale. Avec comme invité Michel Delagarde, vice-président d'Agora Défense, spécialiste des Américains en France dans ce premier conflit mondial et fin connaisseur de l'histoire religieuse de notre belle province. Bonjour Michel.
Bonjour Bernard.
Alors, cette question, Michel, va certainement vous paraître incongrue. Y a-t-il des consignes de la papauté pour dissuader les religieux de partir la fleur au fusil pour cette guerre annoncée comme courte et joyeuse?
Non, absolument pas. Mais il y avait quand même quelque chose de très particulier, c'est que un texte officiel du Vatican interdisait aux prêtres et aux religieux de tuer. Donc, un problème s'est posé et il a fallu que le Vatican lève cette interdiction, ce qui a été fait. Donc il n'y avait absolument pas de consigne en ce sens.
Alors, maintenant passons à des chiffres. Combien de prêtres et religieux sont-ils mobilisés?
Il y a 23 076 prêtres sous les drapeaux, 9271 religieux sous les drapeaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces religieux, nous avons parlé de leur expulsion,
oui,
et de leur départ vers les pays frontaliers ou vers les colonies. Dès le début de la guerre, les consignes des décrets dont nous avons parlé à la dernière émission sont abolies, tout au moins suspendues plus exactement. Nous verrons plus tard que ça n'était qu'une suspension. Donc à partir de ce moment, tous les prêtres et religieux mobilisables qui s'étaient de force expatriés vont revenir en France, ce qui d'ailleurs posera dans les colonies des problèmes parce qu'ils vont quitter leur ministère très prématurément et ils vont revenir en masse.
Ah, ça on le sait pas.
Pour servir la France.
C'est de leur propre initiative.
Tout à fait.
Ah, ça c'est.
Enfin, peut-être que certaines congrégations
ont poussé.
Je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'ils sont revenus.
Ah, très bien, très bien, très bien. Ils reviennent donc, beaucoup reviennent donc des colonies ou des pays limitrophes. Ils vont tous au combat. Mais je crois aussi que l'on distingue dans les prêtres religieux des brancardiers, des combattants. Comment pouvez-vous m'expliquer cela, Michel?
Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est très simple. Nous avons évoqué la loi de 1905.
Oui.
Et nous savons qu'un certain nombre de prêtres et de religieux, les jeunes, avaient fait un service militaire.
Oui.
Ceux-là, quand ils vont rentrer en France ou quand ils vont être mobilisés, vont partir comme simples soldats ou comme sous-lieutenants. Par contre, les plus anciens, eux, ne sont pas formés. Ils vont donc être affectés non plus à des régiments, mais au service de santé, comme brancardier ou comme infirmier. Voilà pourquoi il y a les deux catégories que l'on va retrouver. Et puis, il y a les aumôniers. Il y avait, à l'entrée en guerre, déjà des aumôniers militaires, mais très peu. Il y en avait une centaine, qui est totalement insuffisant.
Moi, je pensais, Michel, que dans chaque régiment, il y avait un aumônier. Sais par exemple qu'au 95e régiment d'infanterie, il y avait un aumônier.
Pas au départ. Il y avait une petite centaine d'aumôniers militaires affectés à l'entrée en guerre. Et c'est Albert Demain qui, dès le 11 août, a souligné auprès de la présidence de la République les carences de l'aumônerie militaire et qui va créer l'œuvre des aumôniers volontaires, avec l'accord du président. Ces aumôniers volontaires sont des gens non mobilisables, qui vont rejoindre volontairement, c'est le cas de le dire, un régiment, et ceux-ci auront la particularité de ne pas être pris en charge par l'armée. Ils ne seront pas soldés, ils ne seront pas nourris. C'est leur diocèse qui va assurer leur subsistance, tout au moins au début. Ensuite, pendant une période de transition, c'était à la bonne volonté du colonel. Un peu plus tard, les choses se sont arrangées et ils ont été normalement soldés et nourris par l'armée. Mais au départ, les aumôniers volontaires ne dépendaient pas de l'armée. Et c'est eux qui ont grossi cette centaine. Il y en a eu environ 400 aumôniers volontaires.
Alors justement,
c'est ça ce qui a permis d'affecter à chaque régiment un aumônier.
Ah, je comprends. Alors c'est pour ça qu'en fait, quand on voit certaines photographies de la Première Guerre mondiale, on voit des prêtres. Il y a des prêtres qui sont encore en soutane, et il y a des aumôniers qui sont en uniforme militaire. Ce qui peut expliquer, est-ce que ça s'explique ça? Est-ce que ceux qui sont encore en soutane prêtres, ce sont des aumôniers volontaires? Et ceux qui sont en uniforme, est-ce que ce sont des aumôniers militaires?
C'est un peu plus complexe que ça.
Expliquez, Michel.
Les aumôniers en uniforme sont les aumôniers officiels. Mais on va avoir, par exemple, quand ils seront décorés, ils vont remettre leur soutane. Quand ils vont célébrer la messe, ils vont mettre leur soutane. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des photographies avec les deux types d'aumôniers. Mais en règle générale, les brancardiers et les infirmiers sont en soutane.
Vous voyez, je découvre, Michel. Ah, justement, si nous revenions à notre clergé Berrichon, est-ce qu'il y a, dans ce clergé Berrichon qui est parti à la guerre, des parcours singuliers ou plus simplement des figures qui émergent? Alors j'aimerais bien que vous me parliez un peu de ces prêtres Berrichon qui ont quand même des parcours assez intéressants, si je puis me permettre.
Oui, oui, non, mais tout à fait. Au 1er août 1914, le diocèse de Bourges comportait 716 prêtres. Il y a eu 275 prêtres, dont 6 volontaires qui ont participé à la Première Guerre mondiale, dont 18 sont morts pour la France. 38 élèves du grand séminaire sont partis et 8 sont morts pour la France. Parmi ces prêtres et ces séminaristes, 6 ont reçu la Légion d'honneur et 56 ont été décorés de la Croix de guerre.
Est-ce que vous pourriez me parler d'un prêtre du diocèse qui a marqué quand même un peu là?
Le premier mort est Maurice-Paul Philibert Mabila, né à Meun sur Yèvre, qui était caporal au 162e RI. Il est décédé le 14 septembre 1914. Parmi ceux dont on peut parler, François Bouchard, né à Vinon, vicaire à Vatan, sous-lieutenant au 290e RI, chevalier de la Légion d'honneur, avec la citation suivante. « Le matin du 5 mai 1916, le régiment se portant en ligne s'est arrêté au milieu d'un tir de barrage pour panser un homme gravement blessé. Dans l'après-midi, les positions tenues par le régiment étant soumises à un bombardement d'une extrême violence, a fait preuve d'une abnégation sublime en restant à découvert dans la tranchée pour panser les nombreux blessés qui se réfugiaient auprès de lui. A été tué dans l'accomplissement de sa tâche de dévouement. Un autre, le curé de Blaye, Augustin Bedu, qui fut aumônier du 95e RI, avec la citation suivante, aumônier détaché au 95e RI, qui le 25 et 26 février n'a cessé de se trouver en première ligne, quittant constamment un léger abri pour aller au secours des blessés et leur offrir les soins de son ministère, sans se préoccuper du bombardement, a donné à tous un bel exemple de dévouement et d'abnégation. Mort en 1916, le 9 juillet 1916.
Un autre prêtre.
Un autre mort à Verdun, le père François Bouchard, sous-lieutenant au 290e RI. Il était vicaire à Vatan avant la guerre. Tué le 5 mai 1916 à Verdun, à la côte 304. Il avait une particularité, outre d'avoir la Légion d'honneur et la Croix de guerre, la croix de Saint-Georges de Russie.
Ah.
Alors, il semble que c'est le tsar qui était en visite en France qui ait décoré un certain nombre de personnages qui l'avaient impressionné. Il n'a pas été faire de campagne en Russie. Il est resté, il est mort à Verdun, mais il y a quand même ce qui est extrêmement rare dans le clergé, il avait la croix de Saint-Georges de Russie. Le futur archevêque de Bourges, Louis-Joseph Fillon, avait été aumônier volontaire et évoquait un personnage, parce qu'ils ne sont pas tous morts, on l'a vu, oui, assez célèbre dans le département, qui est François-Michel Ange Pavillard, aumônier de la 16e DI, chevalier de la Légion d'honneur. Il était né à Saint-Germain-du-Puy. Et après la guerre, il fut curé de Saint-Florent. C'est lui qu'on va retrouver à inaugurer tous les monuments aux morts après la guerre. Et il aura droit à une rue comme ancien président des prêtres combattants du diocèse de Bourges, à une rue à Saint-Florent.
Alors merci Michel pour ces précieux renseignements. Émouvant sur nos prêtres et religieux pendant ce terrible conflit. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices de notre émission Le Berry se raconte avec Agora Défense et la vie militaire dans le Cher et le Berry. Bonne journée à vous et bonne semaine. Merci.